BFM Bourse, on refait la séance.
Avec Benjamin Rousseau, d'Edmond Rothschild Asset Management, bonjour.
Bonjour.
Et puis Romain Josserand, financière d'USES.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est vrai, on le disait en préambule, un petit peu plus tôt, ça aura quand même été l'extraordinaire semaine des semi-conducteurs, là, entre Soitec et ST Microelectronics. On n'a pas arrêté d'en parler, c'était un peu le secteur à avoir. Et on a un petit peu l'impression que... voilà, on est en train de changer de dimension. Les investisseurs sont en train de se dire, ben oui, il n'y a pas que Nvidia, il n'y a pas que Google, il n'y a pas que Microsoft. Au milieu de tout ça, le marché est devenu très granulaire et les valeurs tech européennes ont leur mot à dire là-dessus.
Tout à fait, tout à fait. Et on a rencontré une société suisse hier qui est... qui fabriquent des équipements pour les semi-conducteurs. Et leur message, c'était de dire, bah, nous, on pense que ce momentum qui est très fort sur les semi-conducteurs, nous, on le voit comme étant vraiment très structurel et non plus cyclique comme ça pouvait l'être. Historiquement, le marché des semi-conducteurs, c'était très lié à des cycles de renouvellement. Alors, il y avait le cycle de renouvellement des PC, puis il y avait celui des smartphones, etc. Là, ce qui change, c'est que c'est là vraiment la construction d'infrastructures, les fameux data centers. Donc on est quand même beaucoup moins dépendant comme ça de ces petits cycles qui peuvent finalement faire long feu. Et il y a un autre élément. Enfin, certains les esprits chagrins diront c'est une bulle. Il y a 6 mois, la monétisation de l'IA, elle suscitait clairement des interrogations, des craintes. On se disait mais quel va être le retour sur investissement? Pour tous ces milliards de capex, de dépenses d'investissement qu'on fait dans ces data centers. Bon, vous parliez tout à l'heure d'Anthropic, le chiffre d'affaires annualisé d'Anthropic. Anthropic, c'est une société qui est toute récente.
Oui.
C'est aujourd'hui à peu près 50 milliards. Donc, quelque part, la monétisation, il y a des clients. Donc, ensuite, comme vous l'avez dit, c'est beaucoup d'investissements qui se diffusent finalement sur une chaîne de valeur qui est extrêmement bien fourni. Et en Europe, effectivement, il y a beaucoup de sociétés qui sont impactées à des degrés divers par tous ces investissements massifs dans les data centers. Mais j'ai envie de dire, c'est pas que des investissements dans les semi-conducteurs et dans les boîtes de tech.
Ouais.
Un data center, c'est aussi, il faut l'alimenter en énergie, il faut le refroidir. Il y a tout un tas comme ça. On a même nous, une société en portefeuille qu'on aime beaucoup, c'est un cimentier grec. Vous allez me dire, mais quel est le rapport entre un cimentier grec et un data center?
Il s'est fabriqué.
Il se trouve que cette société, elle est très présente pour à peu près 60% de son chiffre d'affaires aux États-Unis et notamment sur l'État qui est considéré un peu comme le hub des data centers, c'est la Virginie. Autant vous dire que leur perspective de croissance sur les États-Unis, à cause des data centers ou grâce aux data centers, elle est particulièrement dynamique. Donc, vous voyez,
l'État de Virginie est allé chercher un cimentier grec pour fabriquer.
C'est un cimentier grec qui est présent historiquement sur ce marché-là.
Non, mais l'histoire est géniale. C'est juste ça, quoi.
C'est la beauté des small caps.
Ouais. Non, c'est très intéressant. Et donc, ce changement de sentiment autour des semi-conducteurs, enfin, l'Europe a peut-être quelque chose à dire et on en prend conscience. C'est aussi le sentiment que vous retenez de cette semaine?
Oui, tout à fait. Et ça n'a pas commencé cette semaine parce que la hausse des cours comme de Soitec, de ST Microelectronics, d'Infineon, donc de belles sociétés européennes, a commencé déjà depuis quelques mois. Soitec s'adjuge 700% depuis le début de l'année. Donc c'est vrai que le momentum est très favorable sur le secteur. Ça va continuer, à mon sens, pour la raison simple que l'électrification aujourd'hui nous demande d'investir dans les semi-conducteurs, de délivrer des capacités de semi-conducteurs qui sont colossales. Pour les data centers, effectivement, mais dans tous les types d'industries. Donc la tendance va continuer, va s'accentuer. Aux États-Unis, on a aussi la mémoire qui flambe depuis quelques séances. On a vu Micron mercredi s'adjuger près de 20% en séance,
et devenir,
tout en s'accélérant en cours de séance et passer le cap des 1000 milliards de capitalisation.
Ouais. Donc, il a
rejoint
club,
ce fameux club qui est très prime. Et donc on a 3 acteurs principaux dans le monde, qui sont Micron Technologies, SK Hynix et Samsung. Donc, ils se partagent les parts de marché d'un marché qui est colossal, qui est en pénurie, et dont la pénurie a commencé l'année dernière, se poursuit cette année, devrait encore se poursuivre l'année prochaine, et on parle même de 2028. Et malgré des hausses assez phénoménales sur ces titres, on a encore des valorisations de sociétés qui sont, enfin des PE qui sont raisonnables. Sur Micron, on se paye moins de 10 fois les bénéfices pour 2027-2028. Ouais. Donc ça reste acceptable.
Ouais, parce que sur le retour en grâce là des semi-conducteurs européens, on voit que, alors notamment du côté de Soitec, on a des multiples de valorisation qui sont, j'allais dire, supérieurs, pire qu'à Wall Street. En gros, il y a quand même des paris qui sont pris à très très long terme, quoi.
Alors les choses elles vont vite, donc effectivement il faut quand même être sélectif. Mais il y a encore des très belles opportunités sur le secteur en Europe. Nous par exemple en Allemagne, on est une société qui s'appelle SUS Microtech. Bon, c'est un équipementier. Les niveaux de valorisation restent encore très 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 intéressants. La société suisse dont je parlais, qui s'appelle Comet, là aussi on est exposé notamment à la mémoire. Et ce qui est intéressant justement, et pour rebondir sur ce qui a été dit sur cette vague liée aux semi-conducteurs, c'est que finalement tous les feux sont en train vraiment de passer au vert. En fin de l'année dernière, on a eu le marché de la mémoire qui a commencé plus que frémir, c'est vraiment, ça y est, repartir en trombe. On a eu également le marché dit du back-end, donc le marché du packaging de puces qui a commencé aussi à repartir. Et puis, en début d'année, là, c'est vraiment, ça y est, cette vague d'investissement IA en provenance des hyperscalers qui a pris le relais et qui finalement a pris surtout tout le monde par surprise. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas juste... Il y a vraiment plusieurs moteurs de croissance qui se sont allumés sur les semi-conducteurs, et toute la chaîne est en train petit à petit d'en profiter. Attention néanmoins, bien évidemment, au niveau de valorisation.
Alors, je vais réclamer les lumières de Gilles Santacreux. On a beaucoup parlé de valeurs, alors des valeurs beaucoup plus traditionnelles de la côte française. J'ai nommé De Richebourg et Pierre et Vacances. Partout, on a eu des résultats qui étaient quand même exemplaires et des perspectives vraiment porteuses, alors qu'on a des dynamiques d'activité qui sont quand même assez incertaines. Ben non, ces deux groupes ont vraiment bien réagi. Alors c'est vrai qu'on a eu une forte hausse de Pierre et Vacances, plus 5,4%, 1,94€, et on voit que c'est un groupe qui a une progression assez régulière en bourse. C'est pas une valeur de forte croissance, mais c'est une valeur qui est vraiment chouchoutée, bien regardée, et qui gagne sur un an un petit peu plus de 30%. Gilles Santacreux, comment ça se passe, la configuration technique de Pierre et Vacances ?
Pierre et Vacances, effectivement, on a une tentative de reprise haussière. Donc, effectivement, sur le court terme, on peut noter que si on arrive à casser cette zone de résistance à 2€, on aura une poursuite d'un mouvement qui est haussier. Alors, bon, le momentum moyen terme n'est pas encore trop, trop fort. Une phase d'accélération serait la bienvenue. Mais globalement, c'est vrai que voilà, sans avoir une dynamique exceptionnelle, on a une orientation qui reste positive, qui tente à se confirmer. On attend juste un peu plus de conviction pour essayer de jouer un mouvement, je dirais, puissant. En termes de configuration, j'ai une petite préférence, effectivement, par rapport aux deux valeurs que vous avez citées sur De Richebourg.
Ouais, De Richebourg, là, il se passe quelque chose d'un peu plus net.
Ah ben, De Richebourg, si on regarde la cotation par rapport au mois de septembre, on a doublé. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui est intéressant. On revient sur des zones de cotation qui peuvent nous apporter énormément de volatilité. Donc là, on bute un petit peu sous une zone de résistance intermédiaire des 10,50€, mais on a franchi les 10€. On pourrait viser un retour sur 12. Et même par rapport au mouvement que nous avons aujourd'hui, qui invalide un gap baissier par un gap haussier, Les signaux sont au vert et on a des dynamiques qui sont un peu plus fortes. Donc effectivement, si on n'a pas peur de se lancer dans une dynamique qui est déjà haussière depuis un petit moment, on a, et il semblerait, un peu plus de potentiel sur ce titre.
Merci Gilles Santacreux, boursicoté.com. On continue ce débriefing de la séance et de la semaine avec Benjamin Rousseau d'Edram et Romain Josserand de la financière d'Uzès. Il y a un autre secteur qui a pris le relais ensuite, et c'était notamment le cas lors de la séance d'hier, c'est celui de la défense. Alors c'est vrai que depuis un an et demi, on promet ce secteur à de fortes croissances et aux bénéfices des grands plans d'investissement européens. Ça s'est mis à grimper très fort. Il y a eu un coup d'arrêt en disant ouais, mais les investissements ils arrivent pas pour le moment, enfin tout ça va être très long à décanter, et puis là on a droit à une sorte de deuxième étage de la fusée. C'est votre sentiment, Benjamin Rousseau?
Oui, alors nous on reste positif sur le secteur de la défense, même si effectivement une certaine, on va dire, sélectivité quand même reste de mise. Les éléments positifs, structurellement positifs pour le secteur, vous les avez mentionnés. L'Europe est en train de se réarmer. Les bruits de bottes se font entendre ici ou là, un peu partout dans le monde. En point, on va dire, un peu négatif, ce qui peut peser sur le sentiment sur ce secteur, bien évidemment, bah, quand vous avez des annonces de cesser le feu ici ou là, bah, le secteur en lui-même, en bourse, il en pâtit. Ouais. Après, il y a une autre incertitude qui peut être quels équipements pour les armées du futur. C'est pour ça que la sélectivité, elle est peut-être de mise. Mais globalement, oui, on sait qu'on a un secteur qui va être en croissance structurelle, j'ai envie de dire, pour la décennie à venir. On parle de croissance qui sont de l'ordre d'une dizaine de pourcents par an, voire sans doute beaucoup plus pour certaines niches ou certains segments qui seront particulièrement attractifs.
Romain Josserand, ça vous intéresse, la défense, vous êtes, mais alors aussi avec sélectivité ?
Oui, tout à fait. Surtout la défense européenne, assez peu américaine. Ouais. Les cours ont plutôt bien réagi cette semaine sur des nouvelles de missiles par ici ou par là, en Iran et aux États-Unis.
C'est vraiment le mot. Hein.
Oui,
c'est,
oui, tout à fait.
On en est là.
Tout à fait. On est un peu dans une incertitude constante, voilà. Mais donc oui, la défense effectivement est un thème d'avenir. Les chiffres d'affaires des sociétés, à mon sens, sont devant nous, bien que de la croissance ait déjà été réalisée par le passé, mais des plans d'investissement se débloquent, et effectivement, tout reste à faire. Hein. Mais nous, on aime des sociétés comme Dassault Aviation, voilà, qui moi est une société que je suis particulièrement, qui produit un avion qui est tout à fait magnifique, qui est de cinquième génération, qui est très technologique, qui est un fleuron français,
et qui se vend très bien dans le monde. C'est le plus beau, c'est le plus bel avion du monde.
Tout à fait, il a été adopté par des armées vraiment d'importance, l'Indonésie, l'Inde, la France, hein. Voilà,
et n'oublions pas.
Ne l'oublions pas, exactement. Mais maintenant, la montée en cadence doit se faire. Ouais. On y arrive petit à petit. Hein. Ils tablent qu'en 2028, ils devraient réussir à produire 4 avions par mois. Ils en ont livré 26 en 2025. Donc la montée en cadence se fait, mais le marché l'attend.
Alors, vous nous parlez aussi de Semco dans le domaine de la défense. Moi, je ne connaissais pas Semco Technologies. Alors, c'est quoi ?
C'est surtout sur la chaîne des semi-conducteurs, donc c'est un acteur de premier plan qui conçoit des produits en des chocs, ouais, qui sont pour les machines ASML de semi-conducteurs et autres, donc qui est un acteur vraiment petit, qui vient de Montpellier, qui s'est introduit en bourse l'année dernière, qui fait à peu près 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et qui donc a battu les objectifs qu'il s'était fixés lors de l'IPO. Donc on est très content de les suivre et avec attention.
Ok, ouais, non parce que ça venait avec vos recommandations. Donc je pensais que c'est secteur de la défense, rien à voir. Secteur des semi-conducteurs, hein, Semco pour jouer les semi-conducteurs. Et là, techno-européenne. Un petit mot peut-être aussi du secteur du tourisme. C'est vrai qu'on a vu, on en parlait avec Gilles Santacru, une belle performance de Pierre et Vacances. Alors je dirais que c'est un peu le portrait robot de l'acteur rêvé sur lequel il faut miser. Là, avec les considérations d'inflation, les gens sont plutôt tentés de rester en vacances en France. On échappe à l'agitation géopolitique. Pierre et Vacances, si on veut jouer le tourisme, là encore dans cette optique de granularité, on est peut-être en plein dedans, non ?
Oui, sans doute. Alors, je vais pas vous faire une réponse très très satisfaisante. J'ai pas un avis très éclairé, on va dire, sur Pierre et Vacances. On est assez peu exposé finalement.
Au secteur du tourisme.
On l'était avant le déclenchement de la guerre en Iran et de facto, on l'est même encore moins depuis. Voilà, on était assez prudent finalement dans un environnement de consommation qui nous paraissait pas encore peut-être suffisamment fort pour être positif structurellement pour les valeurs de tourisme. Donc voilà, on a une ou deux expositions, plutôt en Europe d'ailleurs, mais globalement, ce n'est pas un secteur qu'on met forcément en avant aujourd'hui.
Romain Josserand, vous, au contraire, vous êtes plutôt positif dessus ?
Alors, je suis positif. On est assez peu exposé à ce secteur aussi. On le voit dans les chiffres de Pierre et Vacances qui ont été publiés hier soir, que la tendance à la hausse repart. Hein. Ils ont publié un chiffre d'affaires en croissance de 6%, donc l'exécution opérationnelle est là. Par contre, le secteur est quand même assez sensible à chaque mouvement géopolitique. En l'occurrence, eux devraient être impactés, à mon sens, assez positivement de la guerre en Iran, parce que les Français devraient voyager au sein de l'Hexagone. Donc, toutes les marques Center Park et autres devraient être touchées assez sensiblement, mais de manière positive. Voilà.
Bon, et un dernier mot, Benjamin Rousseau, Lizzie. C'est une valeur dont on parle beaucoup et qui conserve tous ses intérêts là aussi dans toutes les dynamiques du moment.
C'est ouais, évident. Complètement. Nous, c'est vraiment une très forte conviction. Finalement, on pourrait se dire, ah, mais avec la guerre en Iran, il y a moins de trafic aérien, en tout cas sur cette zone-là. Donc, se dire, ça va impacter négativement des acteurs comme Lizzie. En réalité, faut bien comprendre que Airbus, malgré les quelques petites difficultés qu'ils peuvent avoir, c'est surtout des problèmes de riches et une difficulté à monter en cadence, leur cadence de production. Vous avez un carnet de commandes qui est colossal chez Airbus. Mmh. Et peut-être 8 ans ou 10 ans de carnet de commandes. Mmh. Et derrière, la chaîne de valeur, elle a du mal à suivre. Donc finalement, le discours des sociétés, on va dire, qui sont dans cet écosystème des équipementiers aéronautiques, c'est de dire, si Airbus finalement ne peut pas monter en cadence aussi vite que prévu, finalement ça ne fait que
précisément
on aura un petit peu moins de retard au niveau de la chaîne de valeur. Donc on a énormément de visibilité, et pour le cas plus spécifique de Lizzie, voilà, c'est une société qui est excessivement bien gérée, qui automatise typiquement dans l'aéronautique, sur ses chaînes d'assemblage, qui fait beaucoup d'un gros effort d'automatisation, donc ce qui est assez intéressant. Voilà, ils sont bien embarqués avec Airbus et également avec Boeing. Enfin voilà, c'est vraiment une valeur qu'on aime bien. La rentabilité devrait continuer de s'apprécier au cours des prochaines années. J'ai envie de dire, elle coche toutes les cases. Donc, elle a déjà un très beau parcours. S'il y a une petite faiblesse, faut pas hésiter à en faire un petit peu.
Lizzie à retenir, hein, l'équipementier aéronautique. Benjamin Rousseau, Edmond Rothschild Asset Management. Merci d'avoir été avec nous pour débriefer la séance. Romain Josserand, financière d'Uzès.